Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Zidane, quatre garçons.
Lormanodou.
Un garçon, alors non, pardon, Lormanodou, une fille, deux garçons.
Gaël, mon fils.
Une fille.
Clarisse Agbenienou.
Eh bien, une fille aussi.
Tony Parker.
Deux garçons.
Élodie Clouvel.
Une fille.
Michael Phelps.
Ouais, quatre garçons.
Marie-Josée Pérec.
Un fils.
Tiger Woods.
Eh ben, un gars, une fille.
Désolé les filles, mais je crois que votre invité vous attend là.
Mais justement Bruno, on se prépare là. Dans sa dernière publication, notre invité a mis en évidence que le sport pratiqué par les athlètes de haut niveau pouvait influencer la probabilité qu'ils aient un garçon ou une fille.
Ouais, alors pour l'instant, dans nos calculs, c'est pas clair quand même. Hein.
Alors, surtout si vous êtes comme moi et que vous pensiez encore que seul le spermatozoïde déterminait le sexe du fœtus, bah, restez avec nous parce que vous allez apprendre plein de choses. François Favier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Alors vous êtes chercheur à Euromove et vous avez publié dans Scientific Reports un article intitulé « Effet des disciplines sportives sur le sexe ratio des enfants d'athlètes de haut niveau, une étude observationnel. Alors on va en parler pendant les 20 prochaines minutes et effectivement c'est plein de surprises. Vous avez reconnu en introduction la douce voix d'Aline Perriot, deux filles.
Tout à fait. Bonjour Lucie, bonjour François, bonjour tout le monde.
En deuxième partie d'émission, on reste à Euromove pour la rediffusion d'un reportage sur le Flying Carpet et ce sera avec Stéphane Perret. Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Vous avez le programme, c'est parti. Et oui, on l'a fait à l'envers aujourd'hui.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
François Favier, alors votre étude, elle porte sur 2995 naissances entre 1981 et 2024, issues de sportifs de plus de 80 pays et de 45 disciplines. D'où elles viennent toutes ces données? Alors, sans mentir, moi j'ai juste fait tous les gossips, les pure people et tout ça pour préparer mon lancement, donc on se doute bien qu'il n'existe pas une banque de données avec le sexe des enfants de sportifs. Comment vous avez fait?
Non, effectivement, et c'était donc le gros du travail de recherche. Alors, vous avez cité des sources qu'on a pu utiliser parce que là, on est allé ratisser. Donc, Wikipédia était notre meilleur ami, mais également donc tout ce qui est réseaux sociaux, puisque les sportifs aiment bien poster des petites infos sur la rubrique Carnet Rose, des journaux locaux aussi, et puis des magazines sportifs ou des sites spécialisés sur tel ou tel sport.
Alors, est-ce que vous avez dans cet échantillon autant de sportifs que de sportives?
Et malheureusement, bien sûr que non. On a environ 18% de sportives seulement.
Et pourquoi?
Parce qu'il était plus dur de trouver des informations sur les sportives et probablement que ça tient à la couverture médiatique de ces dernières.
Alors, le premier résultat que vous mettez en avant, c'est qu'on observe chez les sportifs 0,98 naissances de garçons pour une fille. Et alors, vous commentez ce résultat en disant « on est sur la bonne voie ». C'est-à-dire que par rapport à la moyenne dans la population générale, ça correspond à quoi?
Oui, en fait, donc ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire le nombre de naissances masculines divisé par le nombre de naissances féminines, c'est quelque chose qui est assez stable dans la population générale et qui oscille entre 1,03 et 1,05. Et donc là, on voit qu'on est en dessous de 1, ce qui est quelque chose d'assez, déjà assez fort.
Pour être sûr, 1,03 à 1,05, ça veut dire qu'il y a plus de garçons, de naissances de garçons que de filles, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et alors, du coup, l'écart que vous avez trouvé, il paraît pas immense. Est-ce que c'est fortement significatif?
Alors, une des difficultés de notre étude, c'était d'avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire d'avoir un groupe de non-sportifs avec qui on aurait pu comparer nos résultats. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit en introduction, on a des naissances qui se sont échelonnées des années 80 jusqu'à tout récemment. On a plein de pays qui sont représentés. Donc, il aurait fallu constituer un groupe contrôle qui soit appareillé en âge, en sexe, puisqu'on avait 18% de filles, et tout ça sur l'ensemble du globe. Donc, c'était effectivement compliqué de constituer ce groupe contrôle. Donc, on ne peut pas on ne peut pas faire de comparaison statistique avec un groupe contrôle. Néanmoins, quand on regarde la littérature sur le sujet, les gens qui sont intéressés, qui ont observé des effets, des variations de ce ratio-là, même des variations beaucoup plus faibles que ce qu'on a là, ça, c'est significatif.
Alors, vous avez ensuite observé le nombre de naissances de garçons en fonction de la discipline. Et là, on a un écart qui va de 56% à 35%. Alors, quelles sont les disciplines qu'on trouve aux deux extrémités ?
Alors, les disciplines qui fournissent le plus de petits garçons, on a retrouvé le tennis, le rugby, le handball, le ski de descente ou le snowboard. Et à l'inverse, les disciplines les plus pourvoyeuses de petites filles, on a le fond et le demi-fond en athlétisme, donc la course à pied, l'endurance, le biathlon, le ski de fond et la gymnastique aussi.
Alors, à partir de ces premières observations, quelles sont les premières hypothèses ? Qu'est-ce que vous en déduisez a priori là ?
Alors là, ça a simplement conforté un petit peu notre hypothèse de départ, puisque on avait comme hypothèse que les sports d'endurance allaient engendrer plus de filles que les autres sports. Et donc, dans ce que je vous ai dit, on retrouve pas mal de disciplines d'endurance là où les naissances féminines sont les plus importantes, avec quelques exceptions néanmoins.
Alors justement, vous parlez d'endurance, mais vous avez été plus loin en classant les disciplines en 4 catégories. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères que vous avez retenus pour faire cette classification ?
Oui, c'est donc sur la base des efforts inhérents à la pratique de telle ou telle discipline qu'on a classé, alors sachant qu'il y a déjà des classifications qui existent, mais entre les sports donc aérobie ou sport d'endurance, donc des efforts plutôt longs à intensité pas très très élevée, les sports plutôt d'habileté tels que le tir, le surf des mers, hein, ou tout ce qui est activité de pilote. Les sports collectifs sont globalement dans la catégorie mixte parce qu'il y a à la fois des courses, des efforts très explosifs et puis il y a une durée qui est relativement importante. Et puis à l'autre bout du spectre, tout ce qu'on appelle les disciplines nous, de force-vitesse, où on l'a appelé puissance dans l'article, donc on va dire tout ce qui est sprint, lancer, etc.
Alors, au sein même de la catégorie donc, d'endurance et de précision, donc plus pourvoyeuse de filles, au sein donc, de ce sous-groupe, vous constatez une différence là encore significative entre les sportives et les sportifs. Les sportifs de ce sous-groupe engendrent seulement 0,7 garçons pour une fille. Et alors, chez les sportifs, c'est combien ?
Alors oui, alors déjà 0,7 garçons pour une fille, c'est assez drastique comme chiffre. Ça parlera peut-être plus aux auditeurs si on parle en pourcentage. 0,7, ça fait 41% de garçons. Et chez les sportives, le sex ratio...
Alors c'est ça, chez les sportives, on est à 0,7, c'est ça ?
Voilà, oui, pardon. Voilà. Et donc chez les sportifs de ce même groupe, on était à 0,9, 0,91, ce qui fait un pourcentage de presque 48%.
D'accord, donc oui, on a un vrai écart significatif.
Et alors vous avez pris en compte parmi vos critères, alors bien sûr le sexe de l'athlète, mais aussi la date de naissance de l'enfant par rapport à la carrière du sportif ou de la sportive. Pourquoi est-ce que c'était pertinent de regarder ça ?
Alors... Une de nos hypothèses était que cet effet sur les naissances était lié à la pratique d'une activité physique à très haut niveau. Donc on s'est dit, si les sportifs ont leur enfant pendant leur pleine carrière, donc pour rappel, hein, l'immense majorité de nos sportifs étaient des gens qui étaient sélectionnés en équipe nationale, on s'est dit que lorsqu'ils raccrochaient et qu'ils ne pratiquaient plus à un tel niveau, on devrait voir cet effet s'inverser. Et c'est effectivement ce qu'on observe, notamment chez les femmes du groupe d'endurance. Lorsqu'elles ont leur enfant après leur carrière, le nombre de naissances masculines a tend à réaugmenter.
Oui, c'est ce qu'on a observé aussi, nous, dans notre échantillon. On citait Laure Manaudou tout à l'heure.
C'était cohérent, tout à fait.
Ou quand on cherchait des sportives plus jeunes, on se rendait compte qu'elles ont toutes... elles ont un enfant, mais c'est une fille qui... Alors, donc, si on récapitule tous ces critères, si on prend une sportive qui pratique une discipline d'endurance ou de précision et qu'on a un enfant et qui ont un enfant pendant leur carrière, quelle est la probabilité alors d'avoir une fille plus qu'un garçon ?
Alors, dans ce cas-là, le sex ratio est à 0,58, ce qui fait 63% de petites filles pour 37% de petits garçons.
Pas mal.
Et alors tout ça, c'est ce que vous avez observé donc dans vos résultats, et on va discuter maintenant des hypothèses que vous avez posées qui pourraient contribuer à expliquer tout ça. Mais avant, on a une petite question basée sur la détermination du sexe du bébé. Alors si c'est le spermatozoïde qui apporte un chromosome Y ou X qui fait qu'on est une fille ou un garçon, en quoi la mère, elle influe cette probabilité d'avoir un bébé garçon ou fille ?
Eh bien, l'organisme de la maman, ou du moins l'environnement à proximité de l'ovule, peut conditionner, ou du moins favoriser plutôt la réussite, on va dire, d'un spermatozoïde Y ou d'un spermatozoïde X. Il faut savoir globalement que les spermatozoïdes Y, on peut les comparer à des sprinteurs, alors que les spermatozoïdes X sont plutôt des endurants, des résistants. Donc, si on les place sur une ligne de départ, les Y vont se déplacer plus vite, vont arriver plus vite à leur but, si tant est que l'ovule est bien présent au bon endroit au bon moment. Si l'ovule se fait un petit peu désirer et qu'il y a un petit peu de temps qui s'écoule entre la libération des spermatozoïdes et le passage de l'ovule, à ce moment-là, la chance de succès s'inverse et c'est plutôt les spermatozoïdes X qui vont être favorisés. Et donc, il y a certains paramètres qu'on pense, ça a été montré d'ailleurs, lié par exemple au pH vaginal par exemple, qui pourrait favoriser plutôt les X que les Y.
Alors donc une de vos hypothèses, la première à laquelle on pense, donc ce serait une explication hormonale. Donc quelles sont les hormones qui entrent en jeu et comment la pratique sportive peut jouer sur ces hormones ?
Alors, dans la littérature, on retrouve effectivement des études qui montrent que certaines hormones vont plutôt favoriser les naissances masculines et d'autres les naissances féminines. Pour les premières, c'est la testostérone et les œstrogènes qui favorisent plutôt les naissances masculines, tandis que le cortisol et la progestérone, elles, favoriseraient plutôt les naissances féminines. Or, il se trouve que la pratique sportive intense peut engendrer, c'est pas systématique, mais des modifications au niveau hormonal. Et pour information, le ratio testostérone sur cortisol a été pas mal utilisé pour essayer de voir si les athlètes étaient surentraînés ou pas.
Cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est ça?
Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle l'hormone du stress. Alors, elle a mauvaise presse, elle est néanmoins importante à l'exercice parce qu'elle permet, sur des exercices longs, la libération de glucose, de glucides, donc c'est quand même un carburant de l'exercice. Mais effectivement, des taux de cortisol systématiquement élevés sur le long terme ne sont pas très bénéfiques. Ouais.
Et alors, il y a une autre cause qui a été pointée du doigt, qu'on a découvert avec Lucie, qui est la dépense énergétique. Et là, on apprend que le développement au stade embryonnaire est plus coûteux énergétiquement pour un fœtus mâle que pour un fœtus femelle. Alors d'abord, pourquoi ?
On a élaboré plein d'hypothèses, nous. Hein, mais...
Alors, pourquoi ? Parce que les embryons mâles ont tendance à se développer un petit peu plus vite, donc forcément, ça va consommer plus d'énergie. Et là encore, ça va être en lien avec ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que un stress énergétique, si vous êtes dans des conditions où vous manquez un petit peu d'énergie, ça induit la libération de cortisol. Donc c'est pas anodin ça. Et donc vous me posez la question de savoir.
C'était sur le coût énergétique, mais du coup ça veut dire que. Par exemple, si une femme a moins d'énergie au moment de la conception, elle va finalement son organisme va sélectionner un spermatozoïde XY plutôt que XX.
XX, non, okay. XX, ouais. C'est ce qu'on pense, ouais.
D'accord.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas juste le spermatozoïde, il faut distinguer la fertilisation, là on parle de sexe ratio primaire, et puis les naissances, c'est le sexe ratio secondaire. Il se trouve que entre la fertilisation et la naissance, il y a un certain nombre d'embryons qui ne vont pas à terme. Et là encore, les embryons mâles ont tendance à être un petit peu plus fragiles.
Alors, autre facteur qui pourrait impacter ça, c'est le nombre d'heures passées à s'entraîner. Alors ça, vous l'avez vérifié, pardon pour l'analogie, mais vous l'avez vérifié chez des footballeurs chiliens et chez des souris.
Alors, c'est pas nous qui l'avons vérifié, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, mais effectivement, il y a très peu d'études sur, sur cette thématique-là. Et la seule étude récente qui date de 2020 a été faite donc chez des footballeurs chiliens, où les auteurs ont observé que plus les footballeurs s'entraînaient, plus ils avaient des probabilités d'avoir des filles. Et chez les souris, c'est une étude où on a placé des femelles dans une cage où il y avait une roue d'activité. Et les souris ont tendance à courir beaucoup dès qu'elles ont une roue. Et donc les femelles qui couraient, et notamment celles qui couraient le plus, avaient le plus de chances de mettre au monde des petits sourisseaux femelles.
Alors, un autre facteur qui pourrait aussi contribuer à influencer le sexe des enfants, et qui nous a surpris aussi, on a appris plein de choses avec Lucie, c'est les aspects psychosociologiques. Vous dites par exemple qu'une bonne situation financière, elle serait associée à une augmentation des naissances masculines dans la population générale. Est-ce qu'on sait l'expliquer, ça ?
Non, on ne sait pas réellement l'expliquer. C'est quelque chose qui a été observé sur des grosses cohortes, effectivement. Alors, on peut néanmoins quand même le relier au stress en général, notamment le stress psychologique. Si on revient sur les sportifs, nous, une hypothèse qu'on avait émise, c'était que un sportif qui fait un sport un petit peu confidentiel, qui n'est pas trop médiatisé, il va passer beaucoup de temps à s'entraîner. Il faut qu'il gère aussi sa vie de famille à côté. Parfois, il faut qu'il travaille pour assurer un petit peu ses revenus. Il faut qu'il pense à son après-carrière. Et tout ça, ça induit une charge assez importante qu'on peut relier à ce que vous disiez, sachant qu'il y a aussi, ça a été aussi montré que chez les femmes, celles qui ont un travail qui va être considéré comme stressant vont mettre plus de petites filles au monde par rapport à celles qui ont un travail qui est considéré comme peu stressant.
Alors, je ne sais pas pour vous, François-Xavier, mais dans ce studio, on a tous des filles.
Toute déduction serait un petit peu rapide.
Alors, tout ce dont on vient parler, ce sont des hypothèses. Donc, est-ce que vous allez essayer de pousser un peu plus loin pour les vérifier? Et si oui, comment?
Alors, on va effectivement essayer de creuser un petit peu plus pour voir, par exemple, si on retrouve un effet lié à la quantité d'entraînement et savoir si c'est quelque chose qu'on observe uniquement chez les athlètes de très haut niveau. Ou si on le retrouve chez des coureurs lambda. Donc pour ça, on a lancé une étude sur des gens qui font du trail. Néanmoins, pour aller valider les hypothèses physiologiques, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut pouvoir intervenir, jouer sur les paramètres. Ou alors sur ce qui est lié au stress, notamment stress psychologique, il faut mettre en place des questionnaires qui concerne l'année précédant la naissance de l'enfant, et c'est assez dur de se replonger à cette période-là si notre enfant a déjà 5, 6, 10 ans.
Alors, petite question pour tous ceux qui prévoient la conception d'un enfant, ça ne sert pas à grand-chose d'aller faire du 100 mètres ou d'aller faire un marathon, c'est ça ?
Eh ben, c'est peut-être quelque chose qu'il faut explorer.
Ah ouais. Merci beaucoup François-Favier, et à bientôt dans Allume la science. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline ?
Oui, alors on vous emmène à Euromov, sur le campus de l'UFR STAPS, un laboratoire qui étudie l'identification des signatures motrices de la santé, autrement dit, comment des marqueurs physiologiques, neuromusculaires ou sensorimoteurs constituent une véritable carte comportementale. Et sur la plateforme de simulation IMOS, Stéphane Perret, directeur d'Euromov, nous fait découvrir le Flying Carpet.
Bonjour, donc Stéphane Perret, directeur du centre de recherche Euromove, et j'assure ici donc aussi des travaux de recherche orientés sur la physiologie de l'exercice chez l'homme.
Donc aujourd'hui, on vient visiter une plateforme de simulation.
Oui, vous êtes sur une des plateformes que possède ce centre, notamment la plateforme de simulation du mouvement, dénommée iMoose, avec la particularité d'avoir en son centre un robot, un bras articulé. Donc ce robot provient tout simplement de différentes fabrications industrielles qu'on peut retrouver dans l'industrie automobile. Par contre, l'originalité provient de son extrémité distale. Effectivement, vous avez au centre donc le référentiel, et ensuite vous avez différents segments qui sont articulés entre eux, un petit peu comme nos flancs d'articulation et entre le bras et l'avant-bras. Et tout au bout, donc à une certaine distance, on peut venir ici mettre différents dispositifs qu'on va pouvoir donc bouger dans un environnement donc qui est assez important. Vous pouvez monter jusqu'à 10 mètres.
Je veux la décrire, la pièce.
C'est un cube assez important qui est une hauteur d'environ 10 mètres avec une certaine envergure ici de 5 mètres. Et après, on peut, à son extrémité, dès lors que le bras robotisé est en action, Vous voyagez tout simplement dans l'espace, dans les trois dimensions, et selon les trois orientations.
Il y a une raison pour laquelle tout est noir.
C'est davantage si on doit recréer effectivement des situations avec notamment un environnement, on va dire virtuel, si on doit projeter différentes images sur l'ensemble du dispositif. C'était un petit peu l'idée d'avoir ici d'atténuer en tout cas les contrastes de couleurs. Dans les faits, on utilise davantage d'autres dispositifs de réalité virtuelle directement avec des casques embarqués sur la tête des participants. Nous sommes ici sur un centre basé sur le mouvement, donc notre intérêt premier, c'est a été effectivement d'aller développer quelque chose où on va étudier la posture, la personne donc érigée, et notamment lorsqu'elle bouge, notamment en situation de marche. La locomotion humaine, c'est notre objet d'étude premier.
Et depuis quand vous disposez alors de ce simulateur ici sur la plateforme ?
Pour cette plateforme appelée Flying Carpet, ça fait environ 6 mois que celui-ci est fonctionnel.
Alors je vous propose qu'on se rapproche. Donc là, on voit le bras articulé qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et au bout, une cage en cordage avec un drôle de sol. Vous pouvez me parler déjà du sol ?
Oui, on peut apercevoir ici un sol avec un certain revêtement un petit peu caoutchouteux avec 2-3 irrégularités. C'est tout simplement un tapis roulant. Un tapis roulant de marche et de course avec la possibilité, bien évidemment, de faire pas mal de choses en termes de terrain varié. Vous pouvez monter, descendre, avoir tout simplement une déclivité sur le côté, droite, gauche. Et vous avez cette cage au pourtour qui permet tout simplement de sécuriser la personne qui sera mise en mouvement, notamment à quelques mètres au-dessus du sol.
Il y a différents capteurs dans cette cage, c'est ça ?
Alors, il y a différents dispositifs qui permettent de collecter des données sur tout simplement la production du mouvement qui est ici piloté, notamment la vitesse de défilement de la bande du tapis roulant, mais aussi après d'avoir des points de repère par l'intermédiaire de différents segments au niveau donc du bras robotisé dans l'espace.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des applications pratiques ?
C'est un outil déjà mis à disposition pour simuler tout type de mouvement avec une certaine précision, l'objectif étant de mieux comprendre notamment les pathologies reliées aux problèmes de transport. Donc on peut manipuler par ce système, ce dispositif, donc les entrées visuelles, mais aussi donc tout simplement les entrées vestibulaires. Le mal des transports, il est surtout aussi connu sur un mouvement qu'on peut avoir sur un bateau. C'est une expertise forte ici au centre Remove, où différents projets de recherche ont été mis en place dans ce sens. On émet un diagnostic dans un premier temps, et par la suite, on essaie de trouver des solutions, des interventions pour corriger ces pathologies en manipulant les sens.
Vous travaillez plutôt avec le monde clinique ?
On a effectivement la particularité de compter des cliniciens dans le domaine de la rééducation, ici, neurologique et locomotrice. Donc on travaille étroitement avec les collègues du CHU de Montpellier à La Péronie. Mais le transfert industriel est aussi envisageable, notamment par des grands groupes, pense à Alstom, vis-à-vis effectivement des rames de tramway, qui peuvent avoir un intérêt à mieux comprendre effectivement pour leurs usagers qu'est-ce qu'il faut adopter comme stratégie à l'amorce d'une station et notamment à son démarrage pour éviter toute forme de chute.
Alors des simulateurs comme ça, il y en a beaucoup en France ?
Alors en France, non. C'est le seul avec une orientation recherche. Il y en a un autre qui existerait, j'ai envie de dire, sur une orientation très très loisir. Par contre, au niveau européen, donc vous en avez effectivement 3. À l'échelle planétaire, vous en avez 5. Retenons que ce dispositif qu'on a devant les yeux, donc celui-ci, par contre, il est unique. D'avoir mis directement un tapis roulant à l'extrémité de ce bras robotisé, ça c'est vraiment un prototype.
Et est-ce qu'on peut parler rapidement alors de ce qu'on voit au fond Donc là, on voit une espèce de capsule avec un siège qui ressemble effectivement à un siège de pilotage, comme un hélicoptère.
Exactement, donc cette première capsule a été développée à l'origine, quand la plateforme a été installée. Vous pouvez voir effectivement un dôme où on peut avoir ici une projection directement de flux optique pour visualiser différentes scènes. On a différents scénarios effectivement de démonstration où on est en train de piloter à un moment donné cet hélicoptère dans une ville. Par contre, d'un point de vue recherche, c'est davantage sur la désorientation spatiale, notamment des différents pilotes, qu'il y a eu des travaux effectivement menés dans le cadre de thèses avec des sociétés partenaires.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand de retour parmi nous à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.